Excellente interrogation, Marie-France. Pourquoi est-ce qu'on paye? Pourquoi est-ce que on va au cinéma pour l'horreur? Pourquoi est-ce qu'on organise une fête qui génère 9 milliards de revenus? Ça va être ça, l'Halloween?
C'est incroyable. Je savais que c'était plus gros que Noël. Le marché de l'Halloween est plus gros que Noël.
Oui.
Mais je savais pas que c'était à ce point-là.
Mais pourquoi l'horreur pogne-t-elle tellement?
Alors, tu l'as dit, c'est vraiment, ça prend une ampleur folle, cette fête-là, qui a toujours été fêtée. Mais là, c'est pour les adultes, c'est pour les enfants. Il y a des attractions dans différentes municipalités. Il y a eu, en fin de semaine, un défilé de zombies. Et la culture, tu as raison de le dire, des romans, des films, des jeux vidéo, des mangas, des séries de télé. On en produit d'ailleurs ici. Il y a l'excellente série Terreur 404 par Sébastien Diaz, qui est vraiment formidable. Le marché de la décoration, qui est plus gros que celui de Noël. Vraiment une explosion ces dernières années. Ça a pris une ampleur folle. Je tente, Paul, ma modeste explication. Le monde semble terrifiant, mais objectivement, quand tu regardes les statistiques, il y a moins, les guerres sont moins sanglantes qu'avant, le monde est moins brutal, il y a moins de mortalité infantile, il y a moins de meurtres, donc c'est plus apaisé comme monde. Mais globalement, quand on regarde les nouvelles, c'est plus inquiétant que jamais. Juste ce qui nous occupait là, ces derniers jours, l'affaire Khashoggi en Arabie Saoudite, la terreur qui arrive pour vrai, cette synagogue à Pittsburgh.
Les colis piégés explosifs.
Hier, cette nouvelle d'une tristesse inouïe sur la disparition des espèces animales depuis les années 70, 60% des espèces qui ont disparu et qui continuent à disparaître. Il y a deux semaines, on parlait du rapport du GIEC qu'on a à peu près 12 ans dans le monde avant des catastrophes climatiques irréversibles. Politiquement, on en parlait encore hier du Brésil, on glisse des démocraties à des régimes autoritaires, ce qui... Il y a vraiment matière à s'inquiéter.
Ah, mais t'as pas entendu la dernière peur.
Laquelle?
À l'intérieur de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve un super trou noir.
Écoute.
Gigantesque qui va peut-être un jour tout absorber.
Nous avaler.
Voilà, une autre peur.
Ben oui, et ajoute la peur de l'autre, la peur des migrants, ces guerres internes en Afrique, la famine et la guerre au Yémen, le terrorisme qui nous guette toujours. Bref, le monde, on a des nouvelles très inquiétantes du monde et avec la proximité qu'apportent les réseaux sociaux, c'est de plus en plus inquiétant et incompréhensible. Donc, avec l'horreur et la peur, on prend de l'avance, on fait le pire, on imagine le pire, l'horreur, la terreur, et on se l'approprie un peu comme pour exorciser, un peu pour dire « t'es pas game ». Comme dans les carnavals, souviens-toi l'explication des carnavals, carnaval de Venise, carnaval en Nouvelle-Orléans, on défie la mort, on défie la peur, l'ordre, on transgresse les codes, on devient qui nous ne sommes pas. C'est un petit peu la même logique. Alors Halloween, à travers le déguisement, c'est la transgression, c'est défier la peur, c'est rire de l'ordre, c'est rire des autres, avec des costumes, par exemple, de Donald Trump, qui vont être encore très populaires cette année.
Là, les costumes, ce sont les personnages de Fortnite. Le jeu
vidéo. Oui, exactement, le jeu vidéo très
célèbre. C'est actuellement les costumes les plus populaires.
Oui. Alors, toujours comme ça, chaque année, il y a des modes comme ça. Mais l'idée, c'est d'aider à passer à travers. En tout cas, c'est l'explication que je tente. C'est de dire, j'ai même pas peur, je me pratique souvent. Et c'est admettre le chaos du monde. Mais Paul, il y a quand même un bémol à tout ce que je viens de dire. Il y a ceux et celles qui ne comprennent pas cette signification qui essayent de mettre du sens et de la morale dans ce bouleversement des codes.
Comment ça?
Je parle de ces adeptes de la rectitude politique.
Ah, oh.
Ben oui, tu sais de quoi je parle.
Oui.
Ces costumes,
je te vois venir, là,
avec lesquels on ne peut plus se déguiser depuis quelques années parce que ce serait de l'appropriation culturelle, parce que se déguiser en autochtone ou en fille sexy, c'est être genré, ou en danseuse flamenco, ben c'est de s'approprier une culture.
Et surtout pas le blackface. Non, surtout
évidemment,
pas.
Évidemment, il y a des vêtements. J'ai vu passer également sur Twitter des suggestions de vêtements féministement corrects.
Hein?
Oui, absolument.
Hein? Attends.
Oui, oui.
Et c'est quoi?
Ben, par exemple, tu pourrais te déguiser, enfin, toi, non, mais une fille pourrait se déguiser en personnage de La Servante écarlate. parce qu'il y a une charge féministe.
Ah, c'est féministement correct.
Oui, exactement. Parce que, évidemment, se déguiser en un costume sexy, c'est pas exactement...
Ah, non, ça c'est...
Alors, il y a quelque chose de très, très, très moral dans, justement, une fête qui n'est pas morale. Une fête qui est là pour, justement, défier la morale. Mais c'est très... De plus en plus, on fait attention. J'ai vu un influenceur sur Instagram montrer son déguisement de bacon. Il était déguisé en tranche de bacon, ce qui n'est pas correct parce que les VG vont être contre.
Exact.
Donc, ça se réduit. Tu peux te déguiser en clown ou en pirate, à peu près.
Oui.
C'est ça que ça donne.
Et encore.
Profitez-en cette année parce que l'an prochain, il y aura une raison que ça ne sera plus possible.
Parce que si tu te déguises en pirate comme Johnny Depp et que tu portes justement quelque chose sur un œil, il y a évidemment tous les borgues qui vont réclamer justice parce que tu t'es moqué d'eux.
Exactement.
Débat en levant. D'abord, premièrement, je te lis textuellement parce que tu m'as envoyé tes sujets. Je lis « Débat en levant à Montréal ce soir ».
Oui.
Oui,
avec plusieurs petits points d'exclamation.
Un peu étonné.
Oui, parce qu'en général, disons
c'est plutôt
que,
tranquille.
C'est plutôt tranquille et Radio-Canada ne nous a pas habitués ces derniers temps. Et je remonte jusqu'à toute la problématique autour de Slav et Kanata cet été où on invitait systématiquement des gens qui pensaient toute la même affaire et qui donnaient plutôt dans le multiculturalisme et le diversitaire. Donc, c'est pour ça, j'étais un petit peu étonnée de voir ce débat-là qui opposait l'éditorialiste en chef de la presse, François Cardinal, et le sociologue et commentateur au Journal de Montréal, Mathieu Bock-Côté. Deux versions, je te disais, diamétralement opposées de la langue et de l'immigration à Montréal. Et c'est un débat qui se tramait d'ailleurs dans les articles de ces deux gars-là, dans la presse et dans le Journal de Montréal. Et ils se répondaient par articles interposés. Et François Cardinal a même pris à partie nommément Mathieu Bock-Côté et Christian Rioux du Devoir. Voir. Et c'est un vrai débat et on en voit rarement en ce moment à la télé et surtout à Radio-Canada. Et ça reflète, c'est important parce que ça reflète ce que pense une grande partie de la population d'un camp ou de l'autre et ce qui va se passer à Québec en politique ces quatre prochaines années parce que la CAQ est au gouvernement, parce que le PLQ est l'opposition officielle et que ça représente vraiment ces deux positions-là et que la CAQ au pouvoir va vouloir amener la discussion sur les seuils d'immigration. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais résumer un petit peu les arguments rapidement. Mathieu Bock-Côté qui dit que l'intégration ne fonctionne plus à Montréal, qu'un Canadien français qui arriverait à Montréal ne se reconnaîtrait plus dans sa ville. Il y a minorisation accélérée. L'intégration, donc, ne fonctionne plus. Ce qui fait que ça... On faisait semblant que ça marche avec la loi 101. Or, c'est le multiculturalisme qui triomphe et Montréal est devenue une ville bilingue. Pour François Cardinal, Montréal est justement une ville bilingue et c'est une réussite que ça soit ça. Mmh. Montréal est une ville différente grâce à sa diversité et grâce à l'anglais. Et l'intégration des immigrants, dit-il, est une réussite. C'est un plus pour la ville et il n'y a pas de ghetto à Montréal, ce qui a fait évidemment bondir Mathieu Bock-Côté et j'ai bondi moi aussi. Il dit qu'il y a des défis linguistiques, certes, mais c'est pas une question de nombre d'immigrants, mais bien une question de bonne volonté politique et d'argent qu'on y mettrait. Alors, je trouvais ça vraiment important de revenir sur ce débat-là aujourd'hui. Parce que, comme je te disais, ce débat a souvent lieu par chronique interposée ou superposée, on en lit la presse, c'est ça, selon le journal.
Selon le journal pour lequel tu travailles.
Exactement. Parce que c'est de plus en plus, c'est très, très, très connoté. Ce qu'on entend à Radio-Canada, on sait quel point de vue on va avoir, on sait à quoi s'attendre quand on lit le Journal de Montréal et on sait à quoi s'attendre quand on lit la presse. Et une bonne information, c'est un mélange de tout ça. Si on ne lit et qu'on n'écoute qu'une source, on n'a qu'une opinion. Et tout ça, en général, est emballé dans du papier de soie. Alors qu'hier soir, écoute, c'était métal contre métal. C'était vraiment pas aimable. Et c'était avec deux ténors de chaque camp. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'étaient pas des politiciens.
Non.
Parce que souvent, on s'appuie...
Non, parce que souvent, c'est la formule du politically correct qui va s'appliquer.
Oui, tout à fait. Alors que là, hier, on n'était vraiment pas là-dedans. C'est aussi, comme je te disais, un débat important parce qu'on va beaucoup parler d'immigration ces prochains mois avec la CAQ au pouvoir. Et parler d'immigration, c'est bien sûr parler d'économie, comme on l'a beaucoup fait dans la campagne, mais c'est évidemment parler de la langue. C'est important aussi parce que c'est une répétition des arguments qui vont opposer ces prochains mois François Legault et Valérie Plante, la mairesse de Montréal.
Mais forcément.
C'est forcément ça.
Ouais, ouais.
Et parce que je t'ai beaucoup parlé depuis les élections de ce nouvel axe qui est en train de se dessiner en politique, qui remplace l'axe souveraineté-fédéralisme, l'axe identitaire versus multiculturaliste. C'est un peu comme l'axe souveraineté-fédéraliste, mais sans l'enjeu indépendantiste.
Ça, les souverainistes ne t'aiment pas quand tu dis ça.
Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Cette voie-là, VOIE, c'est exclu avec la marginalisation du Parti québécois. Ça reviendra certainement, je crois, parce que c'est fondamental dans la définition du Québec. Mais pour quelques années, ça s'est tassé de notre horizon politique.
En tout cas, pour la dernière campagne, ça, je suis d'accord avec toi.
Oui.
D'ailleurs, tu en avais fait une chronique.
Exactement.
Un après-midi en disant, mais où est passé le traditionnel affrontement fédéraliste-souverainiste?
Oui.
On ne l'a jamais senti dans la campagne.
Exactement. Et on ne le sentira pas.
Au détriment du Parti québécois, d'ailleurs.
Tout à fait. Tout à fait. Et là, on va beaucoup plus parler d'arguments sur l'immigration, sur la culture, sur l'identité, mais sans l'enjeu indépendantiste. Et c'est vraiment une répétition de ça qu'on a vu hier. C'est un peu comme quand tu prends un livre, la préface, c'était la préface de ce qui s'en vient
Intéressant.
Les prochaines années.
Intéressant. Merci beaucoup, Marie-Francienne.
Hey, bon Halloween, Paul.
Oui, joyeux Halloween.
Oui.
J'espère que tu auras peur.
C'est clair.
Dans les prochaines heures. Au revoir.
À demain.